Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix d'Indonésie en français. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette petite heure de programme dédiée à l'Indonésie. Le sommaire aujourd'hui est le journal, la revue de presse, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Pour le programme suivant, nous vous présentons le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Comme la fin de notre émission, vous pouvez écouter le magazine musical. Voilà notre programme pour ce soir. Nous commençons avec le journal.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La 43e conférence ministérielle de l'OTI discutera de l'éducation islamique mondiale. Indonésie et Australie organiseront une réunion pour discuter de la politique et de la sécurité. La valeur commerciale entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan pourrait être augmentée. L'Indonésie se félicite de la détermination d'Antonio Guterres en tant que secrétaire général de l'ONU. Le ministre du Commerce et Import Promotion Index, IPD d'Allemagne, ont signé la coopération de la promotion du bois clair. Et enfin, les exportations de l'industrie du meuble s'intéressent au marché de la Russie et de l'Afrique du Sud. Voici le journal complet. La 43e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, aura lieu les 18 et 19 octobre à l'Ouzbékistan. Lors d'une réunion avec le thème de l'éducation, l'Indonésie invitera les pays de l'OCI à collaborer plus étroitement dans le contexte de l'éducation, à reconstruire la gloire de la science dans le monde islamique et à utiliser l'éducation pour prévenir le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme. Le directeur des affaires socio-culturelles et de l'Organisation internationale des pays en développement, Arko Hananto Budiadi, a affirmé que cet événement annuel produirait une série de résolutions sur la politique, l'économie, le terrorisme et les questions liées à la Palestine et à la Syrie. Dans une conférence de presse tenue vendredi le 4 octobre à Jakarta, Arko Hananto a expliqué: la question palestinienne serait toujours le sujet de discussion dans la réunion ministérielle.
Di dalam pertemuan KTM ini, Indonesia akan
comme nous le savons, dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de conflits et de guerres entre le pays et au sein des pays. Le conflit actuel a également été noté par les pays de l'OCI, y compris l'Indonésie, et comment l'OCI fournit des adresses et des solutions effectivement. Arko Hananto a expliqué qu'à travers cette réunion, l'Indonésie continuera à s'efforcer de créer un forum où les pays islamiques peuvent discuter des questions concernées. Le Forum pour la paix et la résolution des conflits est l'une des propositions du président Joko Widodo lors d'un sommet tenu l'année dernière et a obtenu une très bonne réponse. La réunion a également discuté sur le boycott des produits israéliens dans les territoires occupés par l'Israël en Palestine. L'Indonésie et l'Australie organiseront une réunion le 8 octobre 2016 pour discuter de la politique et de la sécurité. La réunion du ministre indonésien des Affaires étrangères et du ministre de la Défense de l'Indonésie et de l'Australie est la 4e réunion. Le directeur de l'Asie de l'Est et du Pacifique du ministère des Affaires étrangères, Edi Yusuf, a déclaré que cette réunion montrait la coopération étroite entre l'Indonésie et l'Australie. La réunion discutera de la stratégie contre les questions politiques et de sécurité pour renforcer la paix et la stabilité dans les deux régions.
Nah, khusus untuk ke 2+2 dialogue tahun ini,
en particulier pour 2+2, il y a quatre choses qui seront discutées, à savoir la réalisation ou le suivi des engagements antérieurs. Le deuxième est l'augmentation et la réalisation de la coopération contre le terrorisme et la déradicalisation. La troisième, la collaboration, la sécurité et la sécurité maritime, y compris dans la coopération régionale, à la fois dans le cadre du Hora, ainsi que dans le cadre du sommet de l'Asie de l'Est. Et le quatrième, nous allons étudier comment la coopération Australie-Indonésie pour améliorer son engagement dans le Pacifique. Eddie Youssef a expliqué que l'Indonésie va essayer de développer la coopération trilatérale, notamment dans le cadre de renforcer la coopération d'assistance technique avec les pays du Pacifique. La réunion de 2+2 a eu lieu pour la première fois en 2012 à Canberra, en Australie. La deuxième réunion a eu lieu à Jakarta en 2013 et la troisième réunion a eu lieu à Sydney en 2015. La coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan a fonctionné pendant centaines d'années. Les relations bilatérales se concentrent actuellement sur la coopération commerciale. L'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en Indonésie, Tamerlan Garayev, a affirmé à la voix d'Indonésie à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Jakarta, la coopération bilatérale continue à fonctionner même si la valeur du commerce a diminué en 2015.
Bilateral relations between Azerbaijan and Indonesia are progressing. There are permanent positive.
La relation bilatérale entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan se développe. Il y a un moment permanent et fort des deux parties à développer et élargir notre relation. Nous classons les uns des autres en tant que partenaire principal dans la région. Notre commerce bilatéral s'engage à plus de 2 milliards de dollars américains, qui est le deuxième plus grand index entre l'Indonésie et CIS, communauté des États indépendants. Ce chiffre en 2013 était d'environ 1,7 milliard de dollars américains. En 2015, ce chiffre était d'environ 500 millions de dollars américains. L'ambassadeur Tamerlan Garayev a expliqué la coopération potentielle entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan pouvait être développée, telle que l'exportation et l'importation de pétrole brut, la coopération de tourisme et d'éducation. Il espère également que la coopération bilatérale peut être développée à l'avenir. L'Indonésie a salué la décision de l'Assemblée générale de l'ONU le 13 octobre 2016 qui a désigné Antonio Guterres comme le secrétaire général de l'ONU pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2021 selon les recommandations du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Indonésie a apprécié le processus électoral du secrétaire général de l'ONU cette fois étant plus ouvert, inclusif et transparent. Cela a été déclaré par le ministère des Affaires étrangères vendredi. Le gouvernement indonésien a demandé à Guterres de mettre en œuvre un leadership fort et impartial, montre l'indépendance, la responsabilité et la grande intégrité. L'Indonésie croit et soutient toujours le travail des Nations Unies. L'Indonésie espère que le nouveau secrétaire général de l'ONU peut effectuer la tâche et son mandat conformément à la Charte des Nations Unies. Le gouvernement indonésien souhaite que le secrétaire général de l'ONU puisse encourager la mise en œuvre de l'agenda 2030, le programme d'action d'Addis Abeba et l'accord de Paris sur le climat à travers le plaidoyer, le soutien des Nations Unies qui est bien coordonné et le partenariat plus étroit. Antonio Guterres devrait également mettre la prévention des conflits comme un programme majeur de l'organisation des Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le ministère du Commerce par la Direction générale du développement des exportations nationales a signé une coopération avec Import Promotion des IPD d'Allemagne pour augmenter la promotion de bois de l'intérieur dans le cadre de l'augmentation des exportations. Cela a été déclaré par le directeur général du développement des exportations nationales Arlinda à Jakarta vendredi. Arlinda souhaite que la signature de la coopération puisse accroître les exportations, surtout les produits légers, vers les pays de l'Europe. Le ministère du Commerce a signé des accords de coopération tels que Strategy Paper on Lake Wake Timber Indonesia et Service Agreement on Interim 2017. Les deux engagements d'accord de coopération sont en dérivé d'une déclaration de coopération de la promotion commerciale entre la Direction générale du développement des exportations nationales avec IPD d'Allemagne, signée à la mise en œuvre de la 29e exposition commerciale de l'Indonésie en octobre 2014. La réalisation de coopération qui a été signée en marge de l'exposition commerciale de l'Indonésie, TEI 2016, a également été encouragée du succès des trois exportateurs indonésiens à l'exposition Interzoom 2016, parrainée par IPD, et des résultats positifs obtenus par cinq exportateurs indonésiens lors du voyage d'études en Allemagne en juin 2016. L'Indonésie participera à l'exposition Interzoom 2017 à Cologne, en Allemagne. L'Association indonésienne de l'industrie des meubles et de l'artisanat, HIMKI, s'est forcée à chercher les nouveaux marchés afin d'introduire les meubles distinctifs de l'Indonésie. Parce que jusqu'à présent, la part de marché qui est la cible des exportations commence à ralentir, bien que sa valeur ne soit pas grande. Le jeune chef chargé de l'organisation et des relations inter-agences d'IMKI, Abdul Sobour, a déclaré à Jakarta qu'il était prêt à pénétrer dans certains nouveaux marchés. Les marchés plus ciblés sont la Russie et l'Afrique du Sud, ainsi que les pays d'Amérique latine, deviennent les nouveaux marchés pour les produits de meubles. Parce que ces pays n'absorbent pas encore beaucoup de meubles et de l'artisanat de l'Indonésie. Jusqu'à présent, la plupart des meubles et de l'artisanat de l'Indonésie est exporté vers les États-Unis. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta et voici la revue de presse et l'histoire d'aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Kompas, le 14 octobre, qui a écrit sur le règlement du gouvernement en remplaçant de la loi sur émasculé qui n'a résolu pas de problème. Le règlement du gouvernement en remplacement de la loi numéro 1, l'an 2016, sur le deuxième change sur la loi numéro 23, l'an 2002, sur la protection des enfants, était publié par le président Joko Widodo le mai dernier. Ce règlement est publié sur la proposition d'un certain nombre de partis après une série de violences sexuelles contre les enfants, avec en pic l'assassinat d'une jeune femme à Bengkulu. Ce règlement va compléter la loi sur la protection des enfants. Parmi les différents cas de violences sexuelles sur les enfants pendant ce temps, de nombreuses victimes ont de la difficulté à obtenir l'accès aux services de justice et de bonne récupération. Sans la gestion globale, selon ce journal, il y aura plus d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Ensuite, l'éditorial du journal Média Indonésia le 12 octobre a écrit sur l'éradication des frais illégaux pour fixer les services publics. Les frais illégaux est l'une des maladies de la bureaucratie étant les plus difficiles à guérir. De divers systèmes de surveillance étaient mis en œuvre, mais encore on l'a pratiqué dans des espèces de services publics. Ironiquement, ces modes ne sont pas souvent agis ouvertement, comme l'ont fait un certain nombre de fonctionnaires de la Direction générale du transport de la mer du ministère des Transports. Dans une opération d'arrestation aux deux chambres dans le ministère mardi 11 octobre, la police a trouvé des preuves de paiement présumé pratique d'extorsion de licence. Non seulement au ministère des Transports, de telles pratiques sont encore pratiquées au secteur des services publics. Par conséquent, lorsque le gouvernement a décidé de lancer l'opération de l'éradication des paiements illicites, toutes les parties ont salué la politique. prendre des mesures fermes contre les auteurs des paiements illicites de toute classe est aussi un engagement total et l'ordre direct du président Joko Widodo. L'opération de la lutte contre les paiements illicites et des politiques complémentaires pour renforcer l'effet dissuasif pour les criminels et les criminels potentiels dans une plus grande échelle. La politique est conforme à la mission de la Commission d'éradication de la corruption pour rendre ce pays plus propre. Nous terminons avec l'éditorial du quotidien Républicain le 11 octobre qui a écrit sur la condition des partis politiques. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a déclaré qu'il y a 73 partis politiques qui sont des entités juridiques en Indonésie. Cependant, pas tous les partis politiques peuvent suivre la concurrence dans les élections générales en 2019 parce qu'il y a des partis politiques qui ne répondent pas aux exigences de la loi numéro 8 de 2012. En dehors, qu'il y aura un changement dans la loi ou non, clairement, tous les partis politiques qui passent aux élections générales en 2019 devraient être en ligne avec les objectifs des partis politiques, ce qui est de réaliser les idéaux nationaux en gardant l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie, ainsi que de développer une démocratie et la prospérité pour tout le peuple. Il était complètement inattendu qu'il y ait un nombre de partis politiques qui ne sont pas concernés par sa propre idéologie et a gagné une place importante au sein du gouvernement. Si cela arrive, bien sûr, l'essence de la démocratie ne peut pas profiter ensemble. Cher ami, c'était la revue de presse. Cher ami, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec l'établissement de la Commission nationale anti-violence contre les femmes d'Indonésie. La Commission nationale anti-violence contre les femmes est une commission indépendante qui a été établie pour créer une atmosphère propice à l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes et l'application des droits des femmes. La Commission nationale pour les femmes a été créée le 15 octobre 1998 sous le décret présidentiel numéro 181 l'an 1998, étant révisé par les décrets présidentiels numéro 65 et 66 l'an 2005. La Commission nationale pour les femmes est née des exigences de la société civile, en particulier les femmes, au gouvernement de réaliser la responsabilité de l'État pour répondre et à de traiter la question de la violence contre les femmes. Cette demande découle de la tragédie de la violence sexuelle subie principalement par des femmes d'origine chinoise dans les émeutes de mai 1998 dans les grandes villes en Indonésie. Ensuite, le 15 octobre 2003, la République de la Chine populaire a lancé Shenzhou 5, sa première mission de vol spatial habité. Le vaisseau spatial transportant l'astronaute Yang Liwei a été lancé à 1h UTC ou 9h local depuis le cosmodrome Zhu Quang. Le lancement de Shenzhou 5 a utilisé le déménageur Long March 2F. Le site de lancement est situé dans le désert de Gobi. Dans l'ensemble, le Shenzhou 5 a atterri 21 heures plus tard, après avoir contourné la Terre 14 fois le 16 octobre à 22-23 UTC en Mongolie intérieure manque 4800 mètres de l'endroit du lancement initial. Nous terminons avec le 15 octobre 2008, la détermination de la Journée mondiale du lavage des mains. La Journée mondiale du lavage des mains avec des savons est une campagne mondiale lancée par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec d'autres organisations, à la fois le gouvernement et le secteur privé. L'avertissement est destiné à promouvoir le lavage des mains avec du savon par le public. L'activité est une tentative de faire baisser le taux de mortalité à l'âge de 2 à 5 ans et la prévention des maladies qui peuvent avoir un impact sur la qualité de la vie humaine. L'annonce sur la détermination de la journée du lavage des mains avec le savon le 15 octobre portait sur la réunion annuelle mondiale de l'eau qui a eu lieu du 17 au 23 août 2008 à Stockholm, ainsi que la mise en place de l'an 2008 comme l'année internationale de l'assainissement par l'Assemblée générale des Nations unies. La journée du lavage des mains avec le savon devrait permettre d'améliorer les pratiques de santé en général et le comportement sain en particulier. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers amis dans le monde entier, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le programme de la mise au point et en titre. Ministre de la Finance Sri Mulyani participe à la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre de la Finance Sri Mulyani, du 4 au 8 octobre 2016, a assisté à la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international au Washington, D.C. Dans une conférence de presse tenue le mercredi 12 octobre, le ministre Sri Mulyani a expliqué sa participation à la réunion. L'une de ses missions est d'expliquer au monde au sujet de la loi de l'amnistie fiscale. Sri Mulyani a mené une réunion spéciale avec les partis de la Force d'intervention d'action financière, FIAF. Elle a expliqué à la direction de FIAF que la loi d'amnistie fiscale n'est pas utilisé pour faciliter l'argent provenant de la criminalité comme le trafic humain et le blanchiment d'argent. Le programme d'amnistie fiscale est également décrit aux plusieurs ministres dans la réunion bilatérale, y compris les ministres de la Finance des États-Unis, de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Elle a dit que la réunion était très importante pour obtenir le soutien si l'Indonésie nécessite à EOI ou les chances d'information automatisées afin de mettre en œuvre l'amnistie fiscale. Au milieu de la réunion, le ministre Sri Mulyani a aussi mené un entretien avec trois agences de notation internationale, à savoir S&P, soit Standard & Poor's, Moody's et Fitch Rating Agency. Cet entretien vise à expliquer sur le dernier progrès de la situation économique d'Indonésie. Dans cette occasion, Sri Mulyani était accompagné par l'autorité du service financier et la Banque d'Indonésie. Dans la réunion spéciale avec S&P, le ministre Sri Mulyani, étant l'ancien directeur des opérations de la Banque mondiale, a souligné le développement économique qui a été rapporté par le gouvernement est essentiel parce que jusqu'à présent, le S&P ne donne pas encore le niveau de grade d'investissement pour l'Indonésie. Elle espère que la mise à jour de la situation économique de l'Indonésie peut améliorer la notation d'investissement. Lors de la réunion annuelle du Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale, le ministre Sri Mulyani et le ministre de la Finance des autres pays ont également discuté de la même question, à savoir éviter la taxe de la transaction étant difficile à être taxée, telle que la transaction en ligne ou e-commerce. L'objectif principal de la question fiscale est en cas de taxation de la compagnie géante d'Internet des États-Unis, Google, Apple et Amazon. Elle a dit, la chose importante est de savoir comment de construire un système équitable de la fiscalité internationale. Le pays tout entier ne va pas atteindre un objectif commun pour bâtir l'économie, réduire le chômage et la pauvreté sans collaborer à la collecte des impôts. C'était la mise au point.
La 43e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, aura lieu les 18 et 19 octobre à l'Ouzbékistan. Lors d'une réunion avec le thème de l'éducation, l'Indonésie invitera les pays de l'OCI à collaborer plus étroitement dans le contexte de l'éducation, à reconstruire la gloire de la science dans le monde islamique et à utiliser l'éducation pour prévenir le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme. Le directeur des affaires socio-culturelles et de l'Organisation internationale des pays en développement, Arko Hananto Budiadi, a affirmé que cet événement annuel produirait une série de résolutions sur la politique, l'économie, le terrorisme et les questions liées à la Palestine et à la Syrie. Dans une conférence de presse tenue vendredi le 4 octobre à Jakarta, Arko Hananto a expliqué la question palestinienne serait toujours le sujet de discussion dans la réunion ministérielle.
Di dalam pertemuan KTM ini, Indonesia akan
comme nous le savons, dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de conflits et de guerres entre le pays et au sein des pays. Le conflit actuel a également été noté par les pays de l'OCI, y compris l'Indonésie, et comment l'OCI fournit des adresses et des solutions effectivement. Arko Hananto a expliqué qu'à travers cette réunion, l'Indonésie continuera à s'efforcer de créer un forum où les pays islamiques peuvent discuter des questions concernées. Le Forum pour la paix et la résolution des conflits est l'une des propositions du président Joko Widodo lors d'un sommet tenu l'année dernière et a obtenu une très bonne réponse. La réunion a également discuté sur le boycott des produits israéliens dans les territoires occupés par l'Israël en Palestine. L'Indonésie et l'Australie organiseront une réunion le 8 octobre 2016 pour discuter de la politique et de la sécurité. La réunion du ministre indonésien des Affaires étrangères et du ministre de la Défense de l'Indonésie et de l'Australie est la 4e réunion. Le directeur de l'Asie de l'Est et du Pacifique du ministère des Affaires étrangères, Eddy Yusuf, a déclaré que cette réunion montrait la coopération étroite entre l'Indonésie et l'Australie. La réunion discutera de la stratégie contre les questions politiques et de sécurité pour renforcer la paix et la stabilité dans les deux régions.
Nah, khusus untuk Two plus two dialogue tahun ini,
en particulier pour 2+2, il y a quatre choses qui seront discutées, à savoir la réalisation ou le suivi des engagements antérieurs. Le deuxième est l'augmentation et la réalisation de la coopération contre le terrorisme et la déradicalisation. La troisième, la collaboration, la sécurité et la sécurité maritime, y compris dans la coopération régionale, à la fois dans le cadre d'IORA, ainsi que dans le cadre du sommet de l'Asie de l'Est. Et le quatrième, nous allons étudier comment la coopération Australie-Indonésie pour améliorer son engagement dans le Pacifique. Eddy Yusuf a expliqué que l'Indonésie va essayer de développer la coopération trilatérale, notamment dans le cadre de renforcer la coopération d'assistance technique avec les pays du Pacifique. La réunion de deux plus deux a eu lieu pour la première fois en 2012 à Canberra, en Australie. La deuxième réunion a eu lieu à Jakarta en 2013 et la troisième réunion a eu lieu à Sydney en 2015. La coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan a fonctionné pendant centaines d'années. Les relations bilatérales se concentrent actuellement sur la coopération commerciale. L'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en Indonésie, Tamerlan Garayev, a affirmé à la Voix d'Indonésie à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Jakarta, la coopération bilatérale continue à fonctionner même si la valeur du commerce a diminué en 2015.
Bilateral relations between Azerbaijan and Indonesia are progressing. There are permanent positive.
La relation bilatérale entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan se développe. Il y a un moment permanent et fort des deux parties à développer et élargir notre relation. Nous classons les uns des autres en tant que partenaires principaux dans la région. Notre commerce bilatéral s'engage à plus de 2 milliards de dollars américains, qui est le deuxième plus grand index entre l'Indonésie et TIS, communauté des États indépendants. Ce chiffre en 2013 était d'environ 1,7 milliard de dollars américains. En 2015, ce chiffre était d'environ 500 millions de dollars américains. L'ambassadeur Tamerlan Garayev a expliqué: la coopération potentielle entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan pouvait être développée, telle que l'exportation et l'importation de pétrole brut, la coopération de tourisme et d'éducation. Il espère également que la coopération bilatérale peut être développée à l'avenir. L'Indonésie a salué la décision de l'Assemblée générale de l'ONU le 13 octobre 2016 qui a désigné Antonio Guterres comme le secrétaire général de l'ONU pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2021, selon les recommandations du Conseil des secrétaires de l'ONU. L'Indonésie a apprécié le processus électoral du secrétaire général de l'ONU cette fois, étant plus ouvert, inclusif et transparent. Cela a été déclaré par le ministère des Affaires étrangères vendredi. Le gouvernement indonésien a demandé à Guterres de mettre en œuvre un leadership fort et impartial, montre l'indépendance, la responsabilité et la grande intégrité. L'Indonésie croit et soutient toujours le travail des Nations Unies. L'Indonésie espère que le nouveau secrétaire général de l'ONU peut effectuer la tâche et son mandat conformément à la Charte des Nations Unies. Le gouvernement indonésien souhaite que le secrétaire général de l'ONU puisse encourager la mise en œuvre de l'agenda 2030, le programme d'action d'Addis Abeba et l'accord de Paris sur le climat à travers le plaidoyer, le soutien des Nations Unies qui est bien coordonné et le partenariat plus étroit. Antonio Guterres devrait également mettre la prévention des conflits comme un programme majeur de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le ministère du Commerce par la Direction générale du développement des exportations nationales a signé une coopération avec Import Promotion des IPD d'Allemagne pour augmenter la promotion de bois de l'intérieur dans le cadre de l'augmentation des exportations. Cela a été déclaré par le directeur général du développement des exportations nationales, Arlinda, à Jakarta vendredi. Arlinda souhaite que la signature de la coopération puisse accroître les exportations, surtout les produits légers, vers les pays de l'Europe. Le ministère du Commerce a signé des accords de coopération tels que Strategy Paper on Lightweight Timber Indonesia et Service Agreement on Interjum 2017. Les deux engagements d'accords de coopération sont en dérivé d'une déclaration de coopération de la promotion commerciale entre la Direction générale du développement des exportations nationales avec IPD d'Allemagne, signée à la mise en œuvre de la 29e exposition commerciale de l'Indonésie en octobre 2014. La réalisation de coopération qui a été signée en marge de l'exposition commerciale de l'Indonésie, TEI 2016, a également été encouragée du succès des trois exportateurs indonésiens à l'exposition Interzoom 2016, parrainé par IPD, et des résultats positifs obtenus par cinq exportateurs indonésiens lors du voyage d'études en Allemagne en juin 2016. L'Indonésie participera à l'exposition Interzoom 2017 à Cologne en Allemagne. L'Association indonésienne de l'industrie des meubles et de l'artisanat, HIMKI, s'efforçait à chercher les nouveaux marchés afin d'introduire les meubles distinctifs de l'Indonésie. Parce que jusqu'à présent, la part de marché qui est la cible des exportations commence à ralentir, bien que sa valeur ne soit pas grande. Le jeune chef chargé de l'organisation et des relations inter-agences d'HIMKI, Abdul Sobour, a déclaré à Jakarta qu'il était prêt à pénétrer dans certains nouveaux marchés. Les marchés plus ciblés sont la Russie et l'Afrique du Sud, ainsi que les pays d'Amérique latine, deviennent les nouveaux marchés pour les produits de meubles. Parce que ces pays n'absorbent pas encore beaucoup de meubles et de l'artisanat de l'Indonésie. Jusqu'à présent, la plupart des meubles et de l'artisanat de l'Indonésie est exporté vers les États-Unis.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Kalimantan Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. À Bontang, en province Kalimantan Est, il y a une belle île appelée l'île Beras Basah. C'est la petite île située au détroit Makassar, en province Kalimantan Est. Administrativement, cette île est sous le gouvernement de la ville Bontang, Kalimantan Est. Cette belle île est maintenant une destination pour les amateurs de plongée sous-marine et plongée en apnée. Selon le folklore local, l'origine du nom Beras Basah vient des mots Beras, soit du riz, et Basah, soit humide. Il était une fois, il y a un navire appartenant au sultanat Kutai qui était en voile au détroit Makassar. Ce bateau transportait des denrées alimentaires qui comprennent du riz. Mais soudain, ce bateau a sombré et les bagages ont renversé. En raison des eaux peu profondes, l'inée du navire, surtout du riz, n'a pas coulé, mais apparaissent plutôt comme un amas. Finalement, l'amas du riz était transformé en une île de sable blanc, comme du riz qui est toujours humide, car il est entouré par l'océan. L'étendue de l'île Beras Basah est environ 5 hectares. Sa beauté est incontestable. Le sable de la plage est propre, blanc, avec l'eau de mer clarté cristalline turquoise. De plus, les cocotiers dispersés en plusieurs endroits dans un ombre confortable pour se détendre. En outre, à cette île, il y a également les belvédères, des vestiaires, des toilettes et des stands. Mais pour obtenir d'eau, vous devez encore payer 10 000 rupiah à un jerrycan. À l'île Beras Basah, vous pouvez également jouer le bateau de banane et d'autres activités. Pour louer un bateau de banane, vous devez payer 100 000 rupiah. Vous pouvez aussi pêcher. Pour ceux d'entre vous qui aiment la beauté de la mer, vous pouvez essayer la plongée et la plongée en apnée. Vous pouvez aussi marcher le long de la plage et si vous êtes chanceux, vous pouvez voir les animaux marins tels que les oursins, les calmars et les concombres de mer. À l'île Beras Basah, vous pouvez aussi faire du sport comme volley de plage. Pour se rendre à l'île Beras Basah qui est d'environ 220 km du centre-ville Balikpapan, Vous pouvez utiliser un véhicule privé ou un bus air conditionné à un coût par personne 100 000 rupiah. Puis de Bontang, le voyage continue vers Bontang Kuala ou port Tanjung Laut. Du port Oduke, vous pouvez prendre un bateau pour l'île Bras Basah à un coût par personne 45 000 rupiah, ou vous pouvez également louer un bateau d'une capacité de 10 personnes avec un frais de location 400 000 à 500 000 rupiah par navire. L'île Bras Basah n'est pas fournie par les bergements et les restaurants. Si vous voulez rester, vous pouvez louer une salle au centre-ville Bontang. Et si vous visitez cette île, n'oubliez pas d'apporter de la nourriture et des boissons suffisamment. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique « L'Indonésie en couleur ». Aujourd'hui, nous vous présentons l'information sur le festival du lac Maninjau. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix d'Indonésie. Le lac Maninjau est l'un des lacs en province Sumatra-Ouest. Il se trouve au sous-district Tanjung Raya, en région Agam, environ 140 km au nord de la ville Padang, Sumatra-Ouest. Ce lac est celui volcanique, à hauteur de 462 mètres au-dessus du niveau de la mer. Outre utilisé comme source d'eau, le lac Maninjau est aussi profité comme intérêt touristique. Il y a beaucoup de touristes étrangers et locaux qui visitent ce lac pour voir sa beauté. Afin d'augmenter la visite touristique à Sumatra-Ouest, notamment au lac Maninjau, le gouvernement de la région Agam lance le Festival du lac Maninjau. Le Festival du lac Maninjau sera tenu à l'intérêt touristique Muko-Muko au sous-district Tanjung Raya du 3 au 6 novembre 2016. Le Festival du lac Maninjau est le programme annuel du gouvernement de la région Agam pour conserver l'art Minangkabau, car l'art traditionnel Minangkabau est maintenant déjà rare. Les concours d'art traditionnel qui sont tenus sont entre autres la course bidua ou course de bateau, la course tambua tansa ou percussion tambour, talempong aguang soit instrument de musique comme gamelan, Saluang, soit un instrument à vent traditionnel de Minang, et l'exposition. Le Festival du lac Maninjau 2016 sera légèrement différent. Si l'année dernière, la majorité des courses étaient suivies par la communauté rurale autour du lac, comme la concurrence Tambua Tansa, étant seulement suivie par 8 clubs de sous-district Tanjung Raya, au festival cette année, les participants de la compétition Tambua Tansa sont tous les clubs de la région Agam. L'ouverture et la clôture du festival du lac Maninjau seront tenues au parc Muko-Muko, Nagari Koto Malintang, sous-district Tanjung Raya. Les concours seront concentrés au parc Muko-Muko. Outre de lancer les concours de l'art traditionnel, Le festival du lac Maninjau sera animé par l'attraction de parapente. Le bureau de la culture et du tourisme d'Agam se coopère avec l'association de parapente. Pendant 4 jours de cet événement, on fera l'attraction de parapente qui sera suivie par les athlètes de parapente à partir de Sumatra Ouest et national. Ce festival a lieu d'augmenter le nombre de visites à Agam, de sorte qu'il peut mobiliser l'économie de la communauté autour des intérêts touristiques du lac Maninjau. En 2016, le Bureau de la culture et du tourisme d'Agam cible un certain nombre de visites autant que 550 000 personnes et la réalisation d'environ 250 000 personnes. Chers amis, c'était la rubrique de l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer notre programme, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons un groupe musical de rock, Kotak. Kotak ou boîte signifie quatre côtés et quatre angles qui sont réunis dans un bâtiment de boîte. Il décrit quatre personnes différentes mais unies dans une musique. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson du groupe musical Kotak intitulée Rock and Love. Bonne écoute.
Kamu rekam lo, kamu rekam lo, jiwa rekam lo, badan aja.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson du groupe musical Kotar intitulée Rock and Love. Cette chanson est la chanson du thème du film Rock and Love. Ce film raconte l'histoire concrète de la carrière musicale du groupe de musique Kotak. Kotak est formé de l'événement de Dream Band en 2004. Les membres de la bande à ce moment-là étaient Sela, guitariste, Isses, bassiste, Paré, chanteur et Posan, batterie. Ils ont sorti alors leur premier album intitulé Kotak. À la fin de 2006, le chanteur et le bassiste de Kotak ont décidé de sortir et ont été remplacés par Tantri comme chanteuse et Chua comme bassiste. Cette formation a apporté la bonne chance et le nom de ce groupe musical est plus connu dans l'industrie de la musique indonésienne aujourd'hui. L'un des récents œuvres de Kotak en 2016 est une chanson intitulée Haters que nous vous présentons maintenant. Bonne écoute. Je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec le groupe de musique Kotak. Après un congé de maternité et l'accouchement, Tantri et Chua ont salué à nouveau les amateurs avec la chanson Haters. Ils ont exprimé le phénomène de la présence des haters. Selon Kotak, la Samsung haters à la nuance d'un arrangement colossal. Ce qui est intéressant dans cette chanson, Chua l'a chanté avec le genre musical rap. Cette composition intéressante est une nouvelle chose de ce groupe musical. D'autres nouvelles œuvres de Kotak est une collaboration avec une chanteuse indonésienne qui a pénétré le marché international de la musique. C'est Anggun. Vous voulez savoir la collaboration du groupe musical Kotak et Anggun? Écoutons maintenant la chanson intitulée de Vinette. Bonne écoute. Jadi terakhir, c'est le magazine musical de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Ainsi, nous terminons notre émission pour ce soir. Au revoir à tous, on se retrouve demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.